Bonsoir à tous. C'est une première en 2 ans. Un pas important vient d'être franchi dans l'apaisement du conflit ukrainien. 200 prisonniers échangés cet après-midi entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Déjà, les grands de ce monde s'en félicitent. Vladimir Poutine en tête. La tension qui se cristallise, au contraire, entre la France et l'Iran. Paris demande la libération de 2 universitaires emprisonnés depuis juin. Téhéran sort son joker de sa poche en dénonçant l'ingérence française. Pourquoi Jean-Jacques Goldman est-il si indétrônable? Avec Sophie Marceau, il est désigné personnalité préférée des Français. C'est la 9e fois pour le chanteur. Et puis la fabrique des championnes de Metz Handball dans ce journal. Les Messines sont depuis très peu entraînées par un champion du monde. De quoi leur ouvrir l'appétit.
France Inter.
Ils affichent déjà tous deux leur satisfaction. Le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel saluent de manière commune l'échange de 200 prisonniers entre Kiev et les groupes séparatistes du Donbass. 200, c'est un nombre conséquent et c'est une première, surtout depuis 2017. L'engagement de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, au début du mois, s'est donc matérialisé. Jean-Didier Revoin, il ouvre la voie à de nouveaux progrès dans la résolution de la crise ukrainienne.
76 combattants loyalistes détenus dans le Donbass ont été remis à Kiev. Les autorités ukrainiennes ont, elles, libéré et renvoyé chez eux 124 séparatistes. C'est la première fois depuis 2 ans qu'un tel échange se produit. Preuve que les choses ont bougé depuis l'arrivée de Volodymyr Zelensky à la présidence de l'Ukraine. Comme cet échange fait suite à un engagement pris à Paris début décembre lors du sommet au format Normandie, cela démontre qu'en plus de se parler, les parties ont recommencé à se faire confiance. Ce premier pas réussi en appelle donc d'autres, toujours dans le but de parvenir à mettre en œuvre les accords de Minsk qui restent, pour la Russie, le seul moyen de résoudre la crise ukrainienne. Pour l'heure, les autorités russes se gardent de commenter la nouvelle, de peur de faire de l'ombre aux représentants de Donetsk et de Lugansk qui étaient, eux, directement impliqués dans ces négociations. Il s'agit de leur donner un poids suffisant pour négocier dans l'avenir les modalités du statut spécial des régions du Donbass ainsi que la tenue d'élections. Moscou, Jean-Didier Revoin. France Inter.
Le ton monte d'un cran entre Paris et Téhéran, avec au cœur de la tension l'emprisonnement de 2 universitaires du CERI, le centre de recherche international. Depuis le mois de juin, Fariba Adelha et Roland Marshall sont détenus en Iran. Le Quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur iranien à Paris avant-hier pour dénoncer une détention intolérable. Et Téhéran accuse donc la France d'ingérence. Les Iraniens qui n'ont pas l'intention de remettre ces prisonniers, selon Olivier Roy de l'Institut européen universitaire de Florence.
Je crois que c'est une réaction du ministère iranien des Affaires étrangères qui tente de gagner du temps. Donc ils répondent à la convocation de l'ambassadeur d'Iran en France. Les Iraniens, eux, jouent sur le fait qu'Adelha a la double nationalité pour dire que ça ne regarde pas les Français. Par contre, ils sont complètement silencieux sur le statut de Roland Marshall qui, lui, est français. Donc ils essaient de faire une différence entre les deux, bien entendu. Et pour le moment, c'est bloqué parce que les Iraniens disent aux Français que ça ne les regarde pas. Ce sont deux collègues, je les connais depuis longtemps. On travaille ensemble, ils ne sont pas du tout mêlés à des histoires d'espionnage, parce qu'en fait, on est dans un jeu de marchandage entre les gardiens de la Révolution, essentiellement, et le gouvernement français. Il se trouve qu'il y a 2 Iraniens accusés, un de terrorisme, et puis l'autre d'espionnage par les Américains, d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir avec les Français. Enfin, il y en a un qui est arrêté en France. La faction dure du régime, tout simplement, fait du chantage pour la libération de ses agents. C'est une affaire assez sordide, dans le fond. C'est pas du tout une grande affaire politique.
Olivier Roy, joint en Italie par Nadine Epstein. L'attaque contre la résidence d'un rabbin près de New York est un acte terroriste, selon le gouverneur de l'État. L'assaut a blessé 5 personnes, dont 2 gravement hier soir. Un homme avait fait irruption lors d'une célébration de Hanouka avec une arme blanche. Il a été arrêté. Un 25e jour de contestation se termine. 25 jours que la discussion est au point mort au sujet de la réforme des retraites. La passe d'armes continue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement, aujourd'hui par la voix de Jean-Baptiste Djebbari, lance une pique au syndicat CGT en tête. Le secrétaire d'État aux transports accuse l'organisation de pratiquer un syndicalisme de blocage. Et pendant que le ton se durcit entre les deux, la grève continue, notamment dans les transports. Demain, la SNCF prévoit un TGV sur 2, un Transilien sur 4. À la RATP, une très nette amélioration avec 2 lignes de métro fermées seulement. Les RER A et B, reprennent. Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau, voilà les personnalités préférées des Français dans le classement IFOP publié par le journal du dimanche. Jean-Jacques Goldman, toujours indétrônable. La question maintenant, c'est pourquoi Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP.
C'est vrai, ça fait la 9e fois qu'il est premier dans le top 50. C'est un véritable paradoxe, car il n'a pas d'actualité depuis des années. Son dernier album, l'album pour les pieds, la chanson pour les pieds date de 2001, mais il est dans le cœur des Français. Du fait de sa longévité, tout le monde a une histoire personnelle avec les chansons de Jean-Jacques Goldman, sauf les jeunes. Il n'est pas dans le top 10 des moins de 25 ans, qui par définition ne le connaissent plus, mais il y a cette histoire, cette longévité que les Français apprécient, et puis les valeurs que Jean-Jacques Goldman charrie, si je puis dire, sa modestie et une véritable authenticité. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Pour être élevé dans le classement du top 50 IFOP, JDD, qui existe depuis plus de 30 ans, il n'y a pas besoin d'être sur une exposition médiatique trop forte. Il faut compter dans le cœur des Français. C'est le cas de Jean-Jacques Goldman, c'est le cas de Sophie Marceau, qui était très longtemps première femme à l'époque où ce classement n'était pas paritaire. Et c'est le cas de nombreuses personnalités, hein, Belmondo, Renaud, Catherine Deneuve, qui, du fait de leur longévité, du fait de leur authenticité, sont dans le cœur des Français, quelle que soit leur faible ou leur forte présence médiatique.
Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP. Alexis Peintureau, tout en maîtrise aujourd'hui. Le skieur français est bien, même très bien, revenu de sa blessure à la cuisse de lundi. Alors qu'hier, il n'était pas certain de participer à l'épreuve. Il vient de remporter le combiné à Bormio, en Italie. Cela fait 26 victoires en Coupe du Monde pour Alexis Peintureau, qui devient le skieur masculin en activité le plus souvent victorieux dans ces épreuves. Des championnes de France entraînées par un champion du monde. Le handball féminin reprend le fil de son championnat et depuis une heure, les Messines accueillent Nantes, des Messines dirigées depuis 4 ans par un certain Manu Maillonnade, sacré il y a 2 semaines avec la sélection des Pays-Bas. Il est devenu champion du monde. Alors les Dragons de Metz Handball se lancent dans une deuxième partie de saison où tout est possible pour elles, championnat, coupe et Ligue des champions. Forcément, avoir un champion du monde, ça va changer un petit peu la donne, Cédric Langrotte.
Manu Maillonnade ne peut plus se cacher. Il est désormais le coach français à qui tout réussit. Le natif de Mios en Gironde a amené chacune des équipes qu'il a eu à diriger au firmament. Et ce titre mondial ne fait que confirmer cet état de fait.
On a été fêté à Amsterdam. Et puis derrière, il a fallu assez vite revenir en France pour les fêtes de Noël. Puis maintenant, voilà, il faut légitimement repartir avec l'entité Metz Handball. On a plein de très belles échéances. Donc oui, je pense qu'on est assez vite revenu à la réalité.
Car le coach l'assure, il espère que ce titre ne va rien changer à la dynamique messine dont 6 joueuses ont vécu le mondial dans le camp français, avec une décevante 13e place. Mais l'ailière tricolore et messine Manon Ouette espère quand même tirer profit de ce titre mondial.
Quand tu gagnes des choses, ça t'apprend à gagner aussi. Donc c'est super, je suis sûr que ça va pouvoir bonifier le collectif, donc tant mieux.
En effet, même si peu en doutait jusqu'à présent, le Girondin l'a démontré, il est une machine à gagner et il le reconnaît lui-même. Ce mondial lui a permis d'améliorer encore son rapport aux joueuses, plus patient, plus léger, ce sont ses mots, des valeurs qui serviront à n'en pas douter aussi aux handballeuses messines.
Cédric Langrotte, le top 14 de rugby qui ne s'arrête pas pendant les vacances, à l'instant le carton plein de La Rochelle à domicile contre Agen, 40-8, et Bordeaux-Bègles qui vient de reprendre sa première place sur le terrain de la section paloise, victoire 27-23. En ce moment, Clermont-Castres vient de débuter. Et pour clore cette 12e journée, la dernière de 2019, à 21h, Toulouse-Toulon. Quelles conditions de circulation sur les routes? Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir à tous.
En direct du PC Mobilité de Radio France, quelques petites difficultés sur l'A6.
Oui, plusieurs ralentissements signalés entre Lyon et Paris, hein, surtout une fois que vous avez dépassé Beaune. Un accident signalé à Avallon vous ralentit. Et évidemment, eh bien, ça coince aux abords de Paris sur cette autoroute A6 pour rejoindre la Porte d'Italie ou la Porte d'Orléans depuis Vissous. Aux abords de Paris où un accident est également signalé sur l'A10 après la sortie de Dourdan. Conséquence, eh bien, un bouchon d'une dizaine de kilomètres s'est formé en amont. En région parisienne, c'est évidemment compliqué, hein, aux portes de Paris, mais rien de dramatique pour un dimanche soir. Environ 60 kilomètres de bouchons cumulés sont recensés. On reste encore sur cette A10, mais aux abords de Bordeaux. Cette fois, un accident s'est produit après l'échangeur de Libourne-Saint-Antoine. Vous circulez sur une seule voie en direction de Bordeaux. Enfin, ça reste encore compliqué sur l'A7 dans le sens Lyon-Marseille, avec de forts ralentissements pour traverser Valence.
Merci Julie Paco du PC Mobilité de Radio France. La météo.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Et la météo, c'est avec Jean-Michel Golinski.
Un lundi au soleil pour la plupart des régions, mais il faudra passer par les gelées en fin de nuit, n'épargnant que les régions méridionales et les départements côtiers, avec 0 à moins 3 degrés en général, jusqu'à moins 5 dans l'Est, voire moins 7 sur la Haute-Marne. Et naturellement, des brouillards givrants qui, la plupart du temps, vont se dissiper avant le milieu de la matinée. En revanche, près de la Garonne, sur l'Alsace, le Lyonnais et le Val de Saône, la grisaille évoluera beaucoup plus lentement, laissant les températures de l'après-midi à un niveau souvent inférieur à 4 degrés, contre les 8 à 15 prévus du nord au sud, sous le soleil du reste du pays.